France Inter.
Cinéaste, auteur, musicien, producteur littéraire et cosmopolite, Jim Jarmusch est l'auteur d'une œuvre tendre, philosophique, singulière et mélancolique. Caméra d'or à Cannes pour son film Stranger Than Paradise, il a également réalisé Down by Law et Mystery Train, le film à sketch dans des taxis Night on Earth, le western métaphysique en noir et blanc Dead Man, les deux clins d'œil à Jean-Pierre Melville, Ghost Dog, La Voix du Samouraï et The Limits of Control, mais aussi Coffee and Cigarettes, Patterson, Broken Flowers, dans lequel Bill Murray accomplit un pèlerinage auprès de toutes ses anciennes maîtresses, le film de vampire Only Lovers Left Alive, qui m'avait donné envie d'apprendre à jouer de l'oud et d'aller à Tanger, et je n'ai fait ni l'un ni l'autre, ou encore le film de zombies The Dead Don't Die. Membre du groupe Squirrel avec Carter Logan, le francophile à lunettes noires a collaboré sur plusieurs albums avec le luthiste néerlandais Joseph Van Wissem et a notamment consacré un documentaire aux Stooges et à leur chanteur Iggy Pop qui apparaît comme acteur dans plusieurs de ses films. Jim Jarmusch vient de recevoir le Lion d'Or à la dernière Biennale de Venise pour son film Father, Mother, Sister, Brother. Suite d'études minimalistes de personnages, composées de trois moments de retrouvailles familiales entre des enfants adultes et l'un de leurs parents dans un climat de gêne absolu et de non-dit pour les deux premiers segments, et une errance splinétique dans laquelle les parents ont disparu dans le dernier. L'entretien de ce soir sera traduit par Michel Zlotowski. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Jim Jarmusch.
Bonsoir, merci.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Oh, that's a strange question.
Question bizarre.
I must say, just waking up and thinking about things I don't know about.
En pensant les choses auxquelles je ne connais rien, je lis, je relis. Jean Baudrillard.
So I'm very,
donc,
my brain is very,
mon cerveau est en flamme. Enflammé par ses idées.
Un de mes livres préférés de Baudrillard, c'est Amérique. Est-ce que vous l'avez lu?
Oui, yes, I'm in the process of reading.
Je suis en train de le lire.
Also his book about objects.
Et son livre sur les objets, qui est très beau.
And another one called
Et un autre,
Passwords.
Sur les mots de passe.
Il paraît qu'à 11 ans, vous avez cessé d'être chrétien le jour où on vous a dit que les animaux n'avaient pas d'âme.
Yes, I was very insulted
oui,
as a
ça m'a beaucoup insulté en tant qu'enfant, en apprenant que l'Église considérait que les animaux n'avaient pas d'âme. Et j'ai refusé de retourner à l'Église après ça. Je suis dérangé par l'anthropocentrisme de toutes choses. J'ai lu beaucoup sur le concept de conscience unique dans l'univers, en ayant lu Jung et Schrödinger et Charles McKenna, et l'idée que nous n'avons pas des consciences séparées en tant qu'individus. Nous avons des perceptions et des expériences séparées, mais il n'y a qu'une conscience unique dans l'univers. Et c'est vraiment, ça me parle. Et donc, ce n'est pas humano-centré.
Quel est votre rapport à la transcendance ou au sacré, quel que soit le sens que vous lui donnez?
Well, I'm religiously an atheist.
Bien sûr, sur le plan religieux, je suis athée.
I'm very interested
mais je suis très intéressé par le bouddhisme. En théorie, j'aime bien l'idée d'embrasser les contradictions. J'aime beaucoup les religions indigènes, le panthéisme ou les phénomènes naturels. Mais je pense qu'il y a une énergie dans l'univers, une sorte de conscience dont tout fait partie. Et au-delà de ça, je n'ai pas d'accent plus spirituel, plus concentré sur une spiritualité. Je suis très intéressé par la musique extatique et l'art extatique. Son, qu'on a mentionné avant l'interview d'ailleurs, comme de la musique extatique. Je suis impliqué dans un projet, je ne suis pas certain d'avoir le droit d'en parler, mais pour l'année prochaine, pour célébrer la musique extatique de Hildegard von Bingen. Et j'ai composé une pièce musicale pour cela. Ça sera à Venise, je crois, en mai 2026.
Jim Jarmusch, vous avez fait des études de littérature anglaise et française à New York. Quels furent vos premiers émois ?
J'aime les livres depuis que j'étais gamin, ado, pour m'évader. Et beaucoup de mes inspirations littéraires ont été de la littérature française et de la littérature anglaise.
Certainly French poets of many kinds, but Baudelaire
de toutes sortes, mais certainement Baudelaire, Rimbaud, que j'ai lu en tant qu'adolescent, et ils ont ouvert mon esprit à la poésie. Et il y a beaucoup de poètes français que j'ai aimés par la suite, Mallarmé, Blaise Cendrard, très nombreux. Et je dois dire aussi qu'à côté de la littérature, Le surréalisme m'est devenu très important en tant qu'ado. Et ça reste un de mes mouvements favoris en termes d'art du XXe siècle. Le mouvement Dada, bien sûr, précédemment. Mais le surréalisme demeure très très important pour moi. Parce que le surréalisme ouvre les possibles par une sorte dialectique, des choses qui sont triviales et des choses qui sont fantastiques ou du monde des rêves. Et lorsqu'on les réunit sans donner la priorité à l'un par rapport à l'autre, on ouvre une nouvelle porte de la possibilité de l'imaginaire. Et il y a encore une vraiment une exposition des œuvres de Man Ray à New York des années 20 aux années 30 au Metropolitan, qui est vraiment très très inspirant. Et comme vous le savez probablement, et avec mon groupe Squirrel, ça fait quelques années que l'on fait des programmes en l'honneur aussi de Man Ray. Et donc, c'est pas un mouvement français, mais c'est centré à Paris.
Et le surréalisme dans le cinéma, par exemple, chez Buñuel, c'est important pour vous aussi ?
Oui, absolument. Bien sûr.
Le Chien d'Alou
était probablement le premier film surréaliste que j'ai vu. Mais les films de Man Ray sont devenus aussi très importants pour moi.
Alors, and Buñuel throughout.
Et Buñuel, bien sûr, à travers toute sa filmographie.
I love Buñuel's surrealistic tendencies.
J'aime bien les tendances surréalistes de Buñuel à travers toute sa carrière.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Jim Jarmusch, vous avez été très marqué par les films de Nicolas Ray dont vous avez été l'assistant, et j'aimerais bien que vous nous racontiez comment ça s'est produit, puisque je crois que vous ne pouviez plus payer votre école de cinéma à New York, et on vous a proposé Louis B. Mayer comme bourse, et vous étiez furieux, et je vous laisse raconter la suite.
Je ne pouvais pas retourner à l'école de cinéma parce que je n'avais pas d'argent. Et je n'étais pas très content avec les façons de faire de l'école. Mais bon, je suis allé leur dire que je n'allais pas revenir. Et le directeur de l'école, Laszlo Benedek, qui était le réalisateur de The Wild One, vous savez, le film sur les motos avec Marlon Brando, il dit, bon, je me suis arrangé pour que tu aies une bourse de la fondation Louis Mayer. Et Louis B. Mayer était quelqu'un qui avait détruit beaucoup de carrières et même du matériel cinématographique. Il a détruit un merveilleux film, Greed, de Eric Von Stroheim. Et donc recevoir une bourse qui portait le nom de Louis B. Mayer, et puis il a dit, il y a quelqu'un que tu admires qui a besoin d'un assistant qui est dans la pièce d'à côté, c'était Nicolas Ray. Donc j'y suis allé, Je parlais avec lui brièvement, il a dit « Bon, d'accord, allez, tu seras mon assistant. » Et donc je suis resté son assistant pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'on l'ait perdu.
Justement, vous avez aussi été assistant sur le film Testament qui le montre quand il est malade, Nick's Movie de Wim Wenders. Nicolas Ray était atteint d'un cancer, est-ce que ça n'a pas été trop difficile de faire ce tournage ?
Oui, j'étais la seule personne de l'équipe et Nick a demandé à être là. J'ai rencontré des gens adorables qui ont travaillé avec lui, j'ai rencontré Wim, mais c'était très douloureux comme expérience parce que la santé de Nick baissait, déclinait et je ne pouvais pas regarder ce film. C'était trop proche de moi et Nick était vraiment dans des grandes douleurs, donc c'était difficile.
Vous avez fréquenté la Cinémathèque et développé une passion pour le cinéma de Jacques Rivette.
J'ai découvert beaucoup de films classiques du cinéma français. Renoir, René Clair, beaucoup de réalisateurs. Mais la chose intéressante pour moi, c'est que Rivette, Godard, Truffaut étaient des critiques cinématographiques. Ils ont écrit sur le cinéma. Et moi, j'ai découvert d'abord la Nouvelle Vague et ensuite, j'ai découvert les films classiques américains sur lesquels ils avaient écrit. Donc, si vous voulez, j'ai fait ce cercle à l'envers. À travers Godard, Truffaut, Rivette, j'ai moi-même découvert Nick Rae, Douglas Sirk, les films de Fritz Lang en Amérique. Donc, c'était, si vous voulez, un cycle inversé intéressant. Mais la chose intéressante que j'aimerais vous raconter, c'est que au sujet de la Cinémathèque à Paris, il venait, quand Henri Langlois sortait de sa cabine pour nettoyer la salle de la Cinémathèque, il ramassait les choses que les gens avaient laissées. Et moi, j'étais dans mon siège et je ne sortais pas parce que je n'avais pas l'argent. Et la première fois qu'il m'a trouvé, il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Il faut que tu sortes et que tu rentres à nouveau. Tu ne peux pas rester là pour le prochain film. » J'ai dit « Ah, mais c'est un film de Mizoguchi que je n'ai jamais vu et je n'ai pas l'argent. » Il a dit « Bon, d'accord, allez, tu peux rester. » Et c'est arrivé 3 fois. Et la 3e fois, il m'a accepté. Il a dit « Et qu'est-ce que tu vas voir cette fois-ci ? Tu vas voir les films de Jika Vertov ?» Je dis « Oui, oui. » Et je suis resté.
Donc,
j'ai 3 rencontres avec Henri Langlois qui m'a permis de rester dans la salle parce qu'il s'est rendu compte que je n'avais pas d'argent et que j'aimais tellement le cinéma. C'était une excellente expérience. J'étais jeune. Pas propre.
Vous étudiez le jour et vous arpentiez Paris la nuit avec Nadja de Breton comme guide.
Le paysan de Paris.
Le paysan de Paris aussi, d'Aragon. Et Nadja. C'était une source d'inspiration. Une sorte de guide de Paris, des cartes, des plans. Donc je me promenais la nuit. Seul, en utilisant des éléments de ces livres, particulièrement Nadja, des lieux mentionnés dans le livre. Et oui, c'était mes guides, ça c'est certain. Je suis intéressé par
Le guide d'abord,
et puis aussi Baudelaire. Mais l'idée de prendre, j'ai fait un exercice tel que celui-là, me promener sans aucun itinéraire, sans savoir où aller, et étant guidé par des réactions sensorielles aux choses, entendre un son à la fin d'une rue, ah, je vous dis, oh d'accord, donc je vais passer par là, ou une couleur, lumière au bout d'une autre rue. Donc, je suivais cette carte, ce plan de détournement, c'était très utile pour moi. On ne peut pas se perdre si vous ne savez pas où vous allez.
My name is Aloysius Christopher Parker, and if I ever have a son, he'll be Charles Christopher Parker, just like Charlie Parker. But people I know just call me Allie, and this is my story, or part of it. That's how I got from there to here. Maybe I should say from here to here.
Là, on entend un extrait de Permanent Vacation. Jim Jarmusch, c'était votre film de fin d'études. Le film a été réalisé en 10 jours, ce qui est à peu près l'inverse de Coffee and Cigarettes, dont la réalisation s'est étalée, je crois, sur une quinzaine d'années. Il n'y a pas de règle pour la temporalité et la durée de fabrication de vos films ?
Well, you know, things happen,
les choses se produisent sans planification pour moi. Et Permanent Vacation, je n'avais pas suffisamment d'argent pour le filmer plus longtemps que ça. Et le film a été fait pour 12 000 $.
Les choses dans ce qu'elles sont. Mon film Patterson,
j'ai eu le plaisir de le faire pendant 15 ans.
Donc, d'autres occasions, ce film Father, Mother, Sister, Brother
m'est arrivé très rapidement. Je ne sais même pas d'où ça vient. Je n'ai pas eu l'idée de faire un film sur les relations familiales. Je ne sais pas exactement. J'ai commencé à écrire pour des acteurs avec lesquels je voulais travailler. C'est très mystérieux. Toutes les choses sont différentes. J'ai eu différents scénarios pour le film Dead Man avant finalement de réaliser ce film. Et d'autres films viennent très rapidement. Night on Earth, je l'ai écrit en une semaine, une dizaine de jours, très rapidement. Je ne sais pas d'où viennent les choses.
Vous avez toujours des castings très impressionnants. Est-ce que c'est à partir du film Stranger Than Paradise que vous avez commencé à écrire pour les personnages, justement, une méthode qui est restée la vôtre ?
Oui. Quand j'ai commencé à faire des films, Stranger Than Paradise, j'écrivais pour des gens que je connaissais, avec lesquels je pourrais travailler ou qui deviendraient acteurs dans ces films. Depuis lors, je commence toujours par les acteurs que j'imagine. Et le récit vient autour de ces acteurs spécifiques que je peux imaginer. Par exemple, quand j'ai écrit Ghost Dog, la voix du samouraï, j'ai rencontré Forrest Whitaker dans un parking de Los Angeles et il m'a dit
« Hey,
si tu penses à moi pour quelque chose, j'aimerais bien qu'on fasse un film ensemble. » J'avais une idée très vague de Ghost Dog, mais rien vraiment de précis. Donc je me suis dit « Forrest Whitaker ?» Et donc j'ai écrit ce film en raison de cette rencontre accidentelle dans un parking. Des choses comme cela se produisent. J'ai commencé ce nouveau film, Father, Mother, Sister, Brother, parce que j'avais une idée. Ah, si Tom Waits était le père d'Adam, ça serait un point de départ intéressant pour quelque chose. Et puis le film a émergé à partir de cet instant.
Et
j'aime écrire pour des acteurs. Et j'ai pu travailler avec des gens tellement étonnants, Tilda Swinton, et avec des gens avec qui je n'avais jamais travaillé, comme Charlotte Rampling. Incroyable. Donc j'ai eu énormément de chance de travailler avec ces gens merveilleux.
Did you give him any?
No. Well, a few years ago I did. Richard was furious when he found out I'd sent it. But after that, no way. You?
Well, yeah, sure. I helped him out here and there. Man, Cheryl didn't like it either.
That's probably why she divorced you. I'm sorry, I didn't mean to. I shouldn't have said that.
It's okay. There were other reasons.
I'm sorry, Jeff.
On entend un premier extrait de Father, Mother, Sister, Brother, triptyque mélancolique où chaque segment a des motifs en commun mais distribués différemment. Le rapport à l'argent, la voiture, l'eau, la drogue, une montre, des skateurs, les signes astrologiques, les photos de famille et l'expression « Bob's your uncle » traduite en français par « Le roi n'est pas mon cousin ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oh, it's something very difficult to
c'est quelque chose qui est très très dur à traduire. Quand je suis d'abord allé la première fois en Angleterre, j'ai beaucoup aimé entendre cette expression « Et Bob's your uncle » pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le nom de mon oncle, ben, c'est Bob. Mon père aussi est prénommé Bob. Donc, ça, à toutes les réunions familiales où mes cousins avaient mon âge, on se pose la question, où est oncle Bob ? Ah, ton oncle Bob ou mon oncle Bob ? Et cette phrase ridicule, Bob's your uncle, signifie Et voilà, tout simplement en français. Comment je vais d'ici à Montparnasse? Et je vous dis, bah, tu prends telle rue, puis telle rue, tu tournes à droite et à gauche, et voilà, et Bob's Uncle, et voilà. Donc il n'y a pas véritablement de traduction française pour cette expression. C'est compliqué. Et on a le même problème en espagnol, en italien, en allemand. C'est un truc bête. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis dans le film. Peut-être parce qu'en Amérique, personne ne connaît cette expression. C'est très britannique. Allez, je vais la présenter aux Américains.
Alors, le premier segment se passe dans le nord-est des États-Unis, dans le New Jersey. Un frère et une sœur vont voir leur père. Et vous disiez, Jim Jarmusch, au sujet de votre film Patterson, que les conflits dans les couples ne vous inspiraient pas. J'aimerais savoir si les conflits dans les familles vous intéressent plus.
Je ne suis pas vraiment intéressé par des relations familiales. Donc, je ne sais vraiment pas d'où vient ce film. On a tous des familles, à moins d'être orphelins. Et je ne sais pas. Ça me fait grincer des dents quand les gens vont appeler ce film « C'est un film sur les relations familiales ». Parce que ça l'est, mais en fait, c'était pas du tout le point de mon intérêt. Le film était plus sur l'observation de gens dans des situations sans les juger. Et simplement d'être un observateur calme et tranquille. J'aime pas l'idée de gens qui sont dans des cinémas, dans des films, qui disent « Ah, ceux-là sont des bons, ceux-là sont des méchants ». Tout le monde a des failles, et frères, sœurs, tout le monde a ses imperfections, tout le monde est imparfait, mais je voulais les observer de façon tranquille, et ces familles, comme disent dans la famille, le personnage d'Adam dit, on peut choisir ses amants, ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Donc voilà, c'est aussi profond que je veux y aller en tant que famille, analyse familiale dans ce film.
Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des motifs récurrents dans chacun des segments. Il y a aussi visuellement des motifs récurrents. Vous avez assorti chaque membre de la même famille par des couleurs, même s'ils ne sont pas du tout habillés pareil. Vous qui adorez le blues, est-ce que ce n'est pas un peu comme du blues, une sorte de variation du même thème avec à chaque fois une différence ?
Pas simplement le blues. J'aime les variations, les répétitions dans toute forme d'expression. Et j'aime les variations dans toutes les formes de tout, dans les phénomènes naturels. J'apprécie beaucoup le fait que chaque chose est variable sur une telle échelle très petite. C'est très drôle quand on catégorise les choses en disant, ah, par exemple, cette maladie mentale, on dit par exemple, il est passif-agressif, on donne des noms aux choses en sexualité, par exemple, les préférences sexuelles des gens ou l'identité de genre. Ça devrait être aussi variable. C'est-à-dire, il y a autant de variétés que de gens, que d'individus. J'aime pas la catégorisation de ce genre, mais j'aime les variations en musique et en art, toute forme d'expression. J'ai une théorie, je l'ai mentionné précédemment. Johann Sebastian Bach avait, je ne sais pas, 20 enfants, 20 enfants, il y avait beaucoup d'enfants, et il avait un boulot, c'était l'organisme d'église pendant toute sa vie. Et il devait faire à chaque fois produire de la nouvelle musique et il devait nourrir sa famille. Et moi, je pense que les variations de Bach sont venues de la nécessité. Il a dit, oh merde, faut que j'écrive une nouvelle musique cette semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, j'ai cette petite mélodie. Bah, je vais faire une variation là-dessus. Et la contribution de Bach au concept de la variation en musique est tellement superbe. Mais ma théorie, c'est que ça venait d'une nécessité de nourrir sa vaste famille. Mais j'aime les variations dans les arts visuels, en musique, l'architecture, la science, et certainement dans les phénomènes naturels. Je suis un mycologue amateur. J'essaye d'apprendre les différences entre les mousses, les arbres, parce que les variétés de la nature sont complètement dingues. Et c'est beau. Oui, les variations. C'est très, très important.
la 20e heure, Eva Bester sur France Inter.
Yeah, well, I'm very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up, you know? Yeah. Yeah, I still see them now once a year together for afternoon tea, our yearly ritual. Yeah, it really was an excellent suggestion on your part. Mm-hmm. And we do speak on the phone every few weeks at least.
Jim Jarmusch, on entend un second extrait de votre film Father, Mother, Sister, Brother. Vous parlez au sujet de ce film d'un film d'anti-action et vous avez évoqué les champignons à l'instant, un film où les fleurs seraient soigneusement disposées dans trois délicats arrangements. Alors, dans la majorité de vos films, l'atmosphère est primordiale. Le son, c'est très sensoriel, ce sont des films d'atmosphère. Trouvez-vous le réel nul et décevant en comparaison des atmosphères magiques que vous façonnez?
Je ne me considère pas comme créateur d'atmosphères magiques. Je pense que mes films sont un peu banals par rapport aux films qui sont fondés sur le fantasme, la violence, l'action. La façon dont je tente d'englober les petits détails de nos vies, je ne trouve pas que l'ennui soit négatif, mais j'aime vraiment les petites choses, les choses qui ne sont pas célébrées pour être dramatiques. Mais lorsque on réunit les deux choses, sans encore une fois mettre de priorité, comme dans le surréalisme, quand il y a le monde rêvé et le monde réel, et qu'on le met en proportion égale, eh bien, une porte merveilleuse s'ouvre. Mes films ne sont pas surréalistes, je ne suis pas un surréaliste, bien que mon art soit à la tangente du surréalisme. Mes collages, mes juxtapositions sont des réappropriations. Mais oui, je n'essaye pas de faire des mondes fantastiques. Je me contente d'observer les choses à un niveau extrêmement naturaliste. Je ne fais pas des films fantasmatiques.
Bien sûr, je parlais de l'atmosphère.
J'aime toutes sortes de films. Je les regarde en tant que cinéphile. J'essaie de regarder un film par jour, si possible. J'absorbe toutes les possibilités de films. Une forme tellement belle.
Quel est le film que vous avez vu hier, par exemple?
Eh bien, je viens de voir le nouveau film de Panahi. C'était simplement un accident, un film merveilleux. J'étais très ému. C'est un maître. J'ai vu récemment aussi. Qu'est-ce que j'ai regardé? Le film de Claire Denis, Fences. J'ai vu un film avec John Crawford et Gloria Graham qui s'appelait Sudden Fear. J'ai revu Dogswood de William Wyler, Run of the Arrow de Sam Fuller, un des meilleurs films hollywoodiens sur les Indiens d'Amérique. J'ai regardé beaucoup de films. Crime Wave par André de Tocque.
Alors j'aimerais bien qu'on parle de Samuel Fuller parce que vous êtes un fétichiste des détails et vous êtes très généreux dans tous vos films. On voit à peu près toutes vos admirations, les peintres, les écrivains. Et dans The Dead Don't Die, à un moment, on voit Samuel Fuller sur une tombe. Et je crois que c'est quelqu'un que vous convoquez sans cesse quand vous ne savez pas quoi faire. Vous vous dites, qu'est-ce que Samuel Fuller aurait fait ?
Oh man, you know, I knew Sam Fuller.
Oh là là, j'ai connu Sam Fuller, j'ai passé du temps avec lui à Los Angeles, à Berlin, Paris, au Brésil. J'ai beaucoup aimé Sam Fuller en tant que personne, et je l'aime aussi en tant que cinéaste. Beaucoup de grandes citations de Sam. Sam a dit des choses telles que la vie réelle est en couleur, mais le noir et blanc est plus réaliste. J'écris avec la caméra. C'est ma machine à écrire. Mais il était tellement viscéral, tellement fort. C'est une grande source d'inspiration pour moi. Et les temps, j'aime le temps que j'ai passé avec lui. Mais les dons qu'il nous a fait en tant que cinéaste sont remarquables. Et il avait toujours des petits budgets. Et il a fait tellement de films remarquables.
Sam Fuller,
grande source d'inspiration pour moi.
En parlant de gens disparus, dans le troisième segment de votre film, on voit deux jumeaux orphelins qui vont sur les traces de leurs parents disparus dans un accident d'avion. Cela semble la relation la plus authentique dépeinte parmi les trois segments. Je voulais savoir à quel personnage du film vous vous identifiez le plus et quel était votre rapport au deuil.
Well, I have to say that I tend to be closer to the two characters in the third story.
Des deux personnages dans le troisième segment, parce que ce sont des marginaux.
I don't know, they're more my tribe, so
ils font plus partie de ma tribu, en quelque
also,
sorte.
Twins,
et ce sont
brother,
des jumeaux, frères et sœurs, tout comme ma mère était jumelle avec mon oncle, Bob. Et mon grand-père, leur père était un criminel, il était en prison tout le temps.
Donc,
ma grand-mère a travaillé en tant qu'institutrice pour pouvoir nourrir les petits-enfants, et mais ils étaient laissés seuls très souvent, et le résultat, il était très télépathe. Quand le téléphone sonnait, ma mère disait
«
Ah, ça c'est Bob ». Elle prenait le téléphone et c'était l'oncle Bob. Elle savait. Donc il y avait quelque chose de très proche. Donc j'en ai tiré quelque chose pour la troisième partie de « Father, Mother, Sister, Brother » parce que les deux jumeaux sont télépathiques.
But I just appreciate
et
them
j'apprécie
as kind
beaucoup,
of,
je les apprécie en tant que,
I don't know, they're more outsider type people
c'est ces
that
gens
I
un peu marginaux
so
avec lesquels je m'identifie plus.
Closer to my
ils sont
chosen kind of family
plus proches de ma famille choisie.
And I loved working with these two actors.
J'aime bien travailler avec ces deux acteurs.
Indian Luca,
j'ai travaillé avec eux brièvement précédemment, mais ils étaient adorables, gentils de collaborer aussi. Tous les acteurs l'étaient, mais je me sens très proche d'eux.
Alors il y a une chose qui m'a inquiété dans ce film, Jim Jarmusch, c'est que tout le monde boit du café dans tous vos films, même les zombies. Et dans ce film, on boit du thé. Enfin, heureusement, il y a du café à la fin, mais on boit du thé au début. Qu'est-ce qui s'est passé ?
I don't know. This is a strange thing.
Je sais pas, c'est un truc bizarre. Moi, je suis un végétarien, je suis vegan en fait. Mais ça fait je suis végétarien depuis très nombreuses années. Et à un certain point, j'ai abandonné le café et j'ai pas bu de café pendant de nombreuses années. Et puis il y a quelques années, je me suis dit, putain, pourquoi est-ce que je vais pas boire du café ? Et bien maintenant, je bois du café à nouveau. J'aime le café. C'est ma drogue favorite.
Donc,
je suis pas certain. Pourquoi ?
Bah
oui, ils boivent du café dans le troisième mouvement, c'est vrai. Donc je me suis identifié plus avec ça, plutôt qu'avec le thé. Mais j'ai bu du thé pendant de nombreuses années, et on m'a enseigné aussi la bonne façon de faire le thé par mes copains Mick et Joe de Clash. Et ils m'ont donné une leçon une fois à Londres. Comment réchauffer la théière, combien de thé il faut mettre, combien de temps il faut laisser infuser, est-ce qu'on faut mettre d'abord le lait dans la tasse ou pas. Bon bref, j'ai appris l'art du thé des Clash. Mais de façon très particulière, hein, c'est comme de la chimie britannique.
No guns, no sex. How can you stand it?
It's like a game. Deception. Suspicion.
How can you get in here?
I used my imagination.
On entend un extrait de votre film The Limit of Control, inspiré par Le Samouraï de Jean-Pierre Melville avec Isaac de Bancolet. Alors, dans le film de Melville, il y a une fausse citation au début, et vous avez mis une citation de Rimbaud. Est-elle vraie ?
Ah, which Melville film ?
Le Samouraï.
Ah, I don't recall that.
Ben, je ne me souviens pas de ça.
I don't know.
Je ne sais pas.
I very much love Melville, though.
J'aime beaucoup Melville.
Really, I'm a big fan.
Je suis un grand fan. J'ai vu tous ses films et je continue à les regarder. Je viens de revoir Le Dernier Souffle.
Melville, I don't know. Remarkable filmmaker.
Un cinéaste remarquable, très indépendant aussi. Il avait son propre studio.
A really amazing filmmaker.
Un cinéaste vraiment étonnant.
Now I have to revisit this quote in Le Samouraï.
faudrait que je revoie cette citation
du
samouraï.
Vous
m'apprenez des choses que j'ai oubliées. Merci beaucoup.
Parce que Melville est un de mes réalisateurs préférés aussi.
Ah.
Je suis fétichiste avec lui. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur votre rapport à l'imagerie des samouraïs que vous explorez à la fois dans Ghost Dog, puisque le héros est guidé par l'agakure, le code de conduite des samouraïs, et aussi dans The Dead Don't Die, dans le personnage de Tilda Swinton, qui est comme une samouraï avec un sabre. Vous avez aussi fait jouer le rappeur Reza, qui avec le Wu-Tang Clan a beaucoup exploré cette imagerie. Qu'est-ce qui vous plaît dedans ?
I'm very interested in
Japanese culture. Très intéressé par la culture japonaise en général. Donc, j'étais attiré par la culture samouraï, par des choses que j'ai lues, et mes visites au Japon, et les films de Kurosawa, et d'autres films japonais qui ont interrogé l'histoire des samouraïs, la mode des westerns. Mais je suis aussi très intéressé par les arts martiaux. Je ne pratique pas. Je pratique le tai chi et le qigong, mais pas de choses physiquement agressives. Mes pratiques du qigong et du tai chi, c'est ma forme de méditation. Donc je l'utilise comme de la méditation en mouvement. Je sais que je m'éloigne de votre question, mais ça coïncide pour moi dans une sorte de philosophie ou une approche de la façon dont on vit et dont on respire. Et on tente d'être dans le moment présent, ce qui sont des choses extrêmement difficiles d'ailleurs.
D'ailleurs, on voit du tai chi dans plusieurs de vos films. Vous avez aussi une passion pour la culture amérindienne. Alors, on voit ça surtout, il y a plein de références dans vos films, mais surtout dans Dead Man, où Johnny Depp fait le personnage de William Blake. Et le film s'ouvre sur une citation d'Henri Michaud. Il est toujours préférable de ne pas voyager avec un mort. Une citation que vous vouliez mettre sur votre propre tombe.
Ce serait une bonne chose à avoir sur ma tombe.
Michaud
est une autre source d'inspiration pour moi, Henri Michaud.
Mais
je suis très intéressé par les cultures indigènes.
Et
le génocide d'Amérique du Nord est vraiment une histoire qui fend le cœur. Culture qu'on a tenté d'effacer. La culture indigène d'Amérique du Nord, par exemple, est tellement profonde, intéressante et belle à mes yeux. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je tente d'adopter et de connaître. J'ai des amis amérindiens, activistes, avec lesquels je suis en contact. Au lieu de les appeler indigènes, appelle-nous indiens, simplement. Oublie tout le blabla. Ce sont des gens remarquables avec une culture incroyable. Il y a tellement de choses que l'on pourrait apprendre d'eux et à la place, on a tenté de les effacer en raison de notre histoire très déplaisante et violente. Vous savez, l'Amérique est construite sur l'esclavage, l'oppression des femmes, le racisme et moi je suis aussi américain que Bo Diddley, Maya Darren. Je suis très américain, mais je suis conscient aussi de ce qui a formé l'Amérique en tant que lieu, en tant qu'entité politique. Et c'est tragique.
Je renvoie les auditeurs qui s'intéresseraient à ce sujet à votre documentaire « Year of the Horse ». La musique originale du film « Father, Mother, Sister, Brother » est d'Annika Anderson et de vous. Vous reprenez « Spooky » et le voici dans la version de Dusty Springfield, qu'on entend aussi dans votre film. Some plans for tonight.
A lot of what I'm trying to do right now in various films I'm working on, I guess, is what is the ideas behind the digital sort of revolution or digital difference. And for me, partly, it's about time. I think time is the new frontier. Like in the 60s, space was the new frontier.
Alors, en fait, j'essaye beaucoup de travailler à partir de l'outil qui m'est proposé. Et finalement, dans mes différents films ces derniers temps, j'ai été intéressée par le numérique. Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière cette révolution numérique? Et finalement, pour moi, l'intérêt de cette révolution, elle réside dans le temps. Alors que dans les années 60, c'était par rapport à l'espace.
On entend une archive d'Amos Poe sur France Culture en 2008. Il vient de nous quitter. Il avait pris son nom d'Edgar Poe, quelqu'un que vous admiriez tous les deux, Jim Jarmusch. Je crois que c'est un cinéaste que vous vénériez et que vous avez suivi partout.
Quand j'étais jeune à New York et que j'ai grandi CBGB, le rock punk dans cette période-là, j'étais très éclairé par des tas d'artistes, des musiciens d'orchestre comme Television, Patti Smith, etc. Et les cinéastes Amos Poe et Eric Mitchell faisaient des films de guérilla, en quelque sorte, semblables à la scène musicale où ces musiciens n'étaient pas nécessairement prolifiques sur le plan musical, mais avaient quelque chose à dire à leur façon et pas dans une intention commerciale. Amos Poe était un cinéaste qui faisait des films de cette manière-là. Et son film The Foreigner était vraiment une source d'inspiration pour moi.
Et
je le suivais, et Mitchell, et ils m'ont dit, Jim, quand est-ce que tu vas faire ton film? Ton film. Et ils m'ont enseigné comment avoir un petit peu de prêt d'une banque et mentir sur ce que vous alliez faire. En fait, vous alliez emprunter de l'argent pour acheter une bagnole, et puis en fait, vous faisiez un film avec. Et c'est eux qui m'ont guidé. Et Mitchell a parlé de mon premier film. Et Amos Poe était vraiment une grande source d'inspiration.
Parce que là,
il m'a ouvert la porte et m'a dit, vas-y, fais-le.
Ouais.
Donc vraiment.
On arrive à la fin de cette émission. Une dernière question. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre rencontre soit avec William Burroughs, soit avec Andy Warhol?
William Burroughs, j'ai passé beaucoup de temps avec lui parce que le film Burroughs a été fait par mon ami
Howard Bruckner.
Et il y avait une équipe de deux personnes, moi et Howard. Donc moi, je prenais le son et lui, il filmait. On changeait parfois, donc on a passé beaucoup de temps avec William Burroughs.
It's quite a remarkable character.
Un personnage assez remarkable. J'ai beaucoup d'histoires, d'anecdotes, mais je n'ai pas le temps de les raconter. Mais c'était une merveilleuse période de passer du temps avec des gens aussi étranges. Et ça m'a éclairé dans beaucoup de domaines. Moi, j'étais avec Burroughs quand il écrivait ses notes, et ça a inspiré mes propres collages par la suite. Ouais, c'est un personnage intéressant. Et Warhol, Andy Warhol, je l'ai rencontré à plusieurs reprises à New York. Il venait voir jouer mon groupe, Dozen Teams, et j'ai débattu avec lui à plusieurs reprises. Mais c'était toujours des conversations très superficielles. C'était à la Warhol, quoi. Et qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Il dit, ah, je suis resté à la maison et j'ai regardé des films commerciaux. C'était à la télé. Il rendait toutes les choses tellement superficielles et inintéressantes.
Et
j'aime la contribution d'Andy à l'art. Pour moi, Duchamp et Warhol sont les deux icônes du XXe siècle, d'une certaine manière. Se réapproprier les choses. J'aime aussi quand Andy, on lui posait des questions du genre, les gens disent que ton art est superficiel et c'est simplement un miroir à la société, il n'y a pas de profondeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il dirait, ah ouais.
Always Andy's way.
Ça, c'était à la façon de Andy. Les rencontres que j'ai avec Andy étaient,
comment dire,
j'espère que j'en suis très près.
Merci beaucoup, Jim Jarmusch.
Merci, thank you.
Father, Mother, Sister, Brother est déjà en salle. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Oliver, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Romain Lukiens. Et merci à Michel Zlotowski pour la traduction.